Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous avez passé un très bel été puisqu'on a du lourd, du très lourd qui arrive ce matin pour le premier numéro du MAG de la saison 2021-2022. Et pour cela, il y a du monde en plateau. Je vais d'abord saluer celle qui est toujours à mes côtés. Bonjour Michel Philippe.
Bonjour Johanna.
Vous êtes en forme ?
Oh oui, très bien.
Ravie de vous retrouver. En tout cas, je rappelle que vous êtes chargée d'animation pour la DGALN à la DHUP. Et nous avons avec nous trois invités. D'abord, on va saluer Vincent Montrieux. Bonjour.
Bonjour, Johanna.
Vous êtes le sous-directeur de la qualité du cadre de vie au sein de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Une direction qui héberge et supervise le programme d'EMATADS dont nous allons parler aujourd'hui et qui est dirigé par Jean-Baptiste Lannes, qui n'est exceptionnellement pas avec nous ce matin, mais qu'on salue évidemment. On va retrouver également sur notre plateau Benoît Haber. Bonjour, Benoît.
Bonjour, Johanna.
Vous êtes adjoint au chef de bureau du droit des sols et de la fiscalité associée, qui dépend également de la sous-direction de Vincent et auquel appartient également notre troisième invitée, Patricia Chéric. Bonjour Patricia.
Bonjour Johanna.
Vous êtes vous chargée de mission juridique sur le programme d'EMATADS et plus particulièrement sur les questions du numérique, un sujet plutôt vaste et complexe dans le cadre de ce programme d'EMATADS. On va voir ça puisque tous les deux, Patricia, Benoît, vous êtes membre de l'équipe de rédaction du décret et de l'arrêté qui accompagne la dématérialisation de l'application du droit des sols et qui seront l'objet de notre émission aujourd'hui. Ils nous avaient été annoncés de longue date, ils ont été publiés cet été, c'est fait. Et je suis certaine qu'ils sont très attendus par nos auditeurs, on va en parler. On y va, c'est parti pour la thématique du jour.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG.
Je vous le disais, aujourd'hui nous allons parler du programme d'EMATADS, mais sous un prisme un peu différent de d'habitude, puisque nous allons parler de l'aspect juridique. Quel est le contexte de la rédaction du décret et de l'arrêté publié le mois dernier ? Pourquoi encadrer juridiquement la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme ? Quel est le contenu de ces textes ? Et puis surtout, qu'est-ce que ça change de manière pratico-pratique ? On va essayer de répondre à toutes ces questions dans l'émission d'aujourd'hui, et puis à vos questions, puisque n'oubliez pas que Michel vous aidera à y répondre avec tous nos invités. Ce sera en fin d'émission, vous pouvez les poser en attendant tout au long de l'émission dans la fenêtre des commentaires. Vincent, vous vouliez intervenir.
Oui, peut-être pour faire une petite présentation, puisque les périodes de rentrée sont souvent intenses, mais celle-ci l'est particulièrement, puisqu'elle nous rapproche encore un peu plus de l'échéance du 1er janvier 2022. Il ne reste que quelques mois et des obligations juridiques qui sont le thème de l'émission d'aujourd'hui. Alors peut-être en quelques éléments de rappel. Tout d'abord, je laisserai à mes collègues le soin de le présenter dans le détail plus tard dans l'émission. Mais donc rappelons les règles principales qui avaient été fixées par la loi Elan. Pour toutes les communes, l'obligation d'être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d'autorisation d'urbanisme. Et pour celles qui ont plus de 3500 habitants, d'assurer l'instruction de ces autorisations sous forme dématérialisée. Et pour que les communes puissent mettre en œuvre la dématérialisation, nous avons franchi donc plusieurs étapes importantes ces derniers mois. Je les rappelle en quelques mots. Et surtout, je rappelle les résultats qui ont été partagés lors du dernier comité de pilotage du 20 juillet, co-présidé par Emmanuel Wargon, ministre délégué en charge du logement, et Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Il en ressort plusieurs éléments structurants. Premièrement, les objectifs du premier semestre 2020 ont globalement été atteints. Les textes ont été publiés, c'est l'objet de l'émission de ce jour. Les systèmes d'information ont été déployés. Les directions départementales des territoires et de la mer, qui sont pilotes des déploiements sur les territoires, ont continué d'être accompagnés, pour à leur tour accompagner le déploiement des collectivités. Le ministère de la Culture a de son côté développé sa solution pour émettre des avis dématérialisés. Donc aujourd'hui, les services de l'État sont en mesure de recevoir et de traiter les dossiers par voie dématérialisée des collectivités volontaires. Deuxième élément, les financements France Relance pour accompagner la mise en place de la dématérialisation ont été ouverts, comme nous l'avions annoncé à votre antenne, et restent accessibles pour les collectivités jusqu'au 31 octobre. À ce jour, plus de 300 dossiers ont été déposés et j'invite les collectivités volontaires à mobiliser ce guichet pour disposer de financement pour mettre en œuvre la dématérialisation. En effet, nous avons effectivement cette possibilité de financer les collectivités, de les aider et il est souhaitable qu'elles utilisent au mieux cette enveloppe qui est fournie. Enfin, 30 centres instructeurs qui correspondent à 45 communes réparties sur 13 départements sont aujourd'hui raccordés à Plateau, la plateforme des autorisations d'urbanisme qui permet le partage et l'échange des dossiers entre tous les acteurs de l'instruction. Et près de 1500 dossiers ont déjà été transmis. Donc, comme vous le voyez, cela fonctionne. Et ces résultats sont très encourageants et doivent nous conduire à poursuivre les efforts sur ce deuxième semestre. Une enquête que nous avons réalisée en juin montre d'ailleurs que la quasi-totalité des centres instructeurs sont mobilisés pour être prêts au plus vite aux alentours du 1er janvier 2022. Néanmoins, le comité de pilotage a été l'occasion de partager l'importance des travaux à réaliser pour les collectivités et donc ce qui restait à mener. Tous les partenaires du programme doivent rester engagés à nos côtés pour continuer de sensibiliser, de former, d'informer, de mobiliser, d'équiper et d'accompagner les communes qui doivent à leur tour se mobiliser massivement pour respecter les échéances de la loi Elan et de la saisine par voie électronique, deux obligations réglementaires que nous allons vous expliquer tout de suite. Alors nous allons continuer cet effort de communication le plus largement possible dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, notamment sur les modalités de mise en œuvre de la saisine par voie électronique, puisque c'est une obligation qui s'impose à toutes les communes. Le 30 septembre, un webinaire sera organisé avec l'Association des maires de France et avec l'Association des collectivités de France pour aborder le sujet de la SVE, la saisine par voie électronique, bénéficier des retours d'expérience de collectivités déjà prêtes. Donc pour ceux qui ne sont pas encore inscrits ou bien évidemment noter cette date qui sera une étape importante dans la capacité à effectivement appréhender ce dispositif. Et enfin, le 5 octobre prochain, nous reviendrons sur votre antenne pour parler de ce sujet en détail et orienter les collectivités sur les modalités de mise en œuvre de la saisine par voie électronique les plus rapides et les plus sécurisées. D'autres temps forts, notamment le congrès des maires, viendront rythmer cette fin d'année pour encourager au maximum la mobilisation des communes.
Merci Vincent pour cette introduction. Vous nous avez parlé de la date du 31 octobre prochain pour les demandes de financement dans le cadre du plan France Relance. Est-ce que ce n'est pas un peu tard pour déposer un dossier, surtout que, si je me souviens bien, vous aviez insisté sur la nécessité de présenter les factures pour justifier des dépenses qui ont été faites.
Et alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous avons effectivement pu constater effectivement certaines difficultés s'agissant de la nécessité de présenter des factures. Et donc ce point a été abordé, notamment lors de la préparation du comité de pilotage, puisque les associations de collectivités, nos services déconcentrés, les éditeurs de solutions de logiciels avaient appelé notre vigilance sur ce point. Alors nous avons travaillé cet été et nous allons ajuster le dispositif de manière très simple. Les collectivités pourront déposer un dossier se fondant comme pièce justificative sur un devis signé, un bon de commande qu'elles ont endossé, avant le 31 octobre. Donc on conserve cette date du 31 octobre, mais on permet que soient présentées non plus uniquement des factures, mais également des devis signés ou des bons de commande acceptés, dès lors qu'on estime que par là même, il y a un engagement de la collectivité avec ce type de document. La direction départementale des territoires et de la mer pourra, si le dossier est recevable, indiquer le montant du financement qui sera accordé, sous réserve de produire les factures correspondantes. Et quant à ces factures, elles devront être émises avant le 31 décembre 2021 et donc envoyées dans la foulée de leur émission. Et cette modalité, en fait, devrait permettre d'élargir le nombre de dossiers effectivement reçus en finalement permettant également d'obtenir cette subvention et en tout cas d'obtenir le montant qui permet d'avoir une visibilité pour les collectivités de cette subvention dès lors que le bon de commande ou le devis est présenté avant le 31 octobre.
Merci Vincent Montrieux pour ces explications. On voit bien que le programme des maths DS avance plutôt très vite et que tout est fait pour que le maximum de collectivités y adhèrent. Je me tourne à présent vers vous, Benoît. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de l'adoption de ces textes ?
Bien sûr. Alors, l'adoption de ces textes se situe dans le prolongement de la politique de dématérialisation de l'ensemble des procédures et des politiques publiques. Et donc d'un panorama de différents textes qui existent. Donc dans ce contexte, les travaux menés ont abouti en 2015 à la mise en place d'un cadre général de la dématérialisation que l'on retrouve aujourd'hui dans le Code des relations entre le public et l'administration qu'on appelle le CRPA. Celui-ci prévoit notamment donc, le principe du droit des usagers à saisir l'administration par voie électronique pour toutes leurs demandes au moyen d'un téléservice que les autorités administratives sont tenues de proposer. Par exception à ce principe, les procédures d'autorisation d'urbanisme ont été exclues temporairement de ce champ pour des motifs de bonne administration, disent les textes, en clair, en raison du caractère complexe de ces procédures. Une première échéance avait été fixée pour les autorisations d'urbanisme à fin 2018. Elle a été ensuite repoussée au 1er janvier 2022. En parallèle, la loi Elan a introduit l'obligation pour les communes de plus de 3500 habitants de se doter, donc à cette même date, au 1er janvier 2022, de téléprocédures qui permettent bien évidemment de recevoir les demandes d'autorisation d'urbanisme, mais également, et c'est vraiment là l'originalité, de les instruire.
Donc c'est, si je comprends bien, en prévision de cette échéance du 1er janvier 2022, que ces textes ont été rédigés.
Tout à fait. C'est en vue de cette date du 1er janvier 2022 qu'un décret du 23 juillet et un arrêté du 27 juillet ont été publiés, même si en réalité ils peuvent s'appliquer dès à présent aux communes qui acceptent déjà en pratique la saisine par voie électronique. Ces deux textes sont complémentaires, j'insiste bien là-dessus. Le décret vient tout d'abord adapter les règles de procédure à ce nouveau contexte de dématérialisation. En pratique, il articule le code de l'urbanisme avec les dispositions de droit commun du CRPA, et ce à toutes les étapes de l'instruction. Donc, l'arrêté, lui, vient préciser les caractéristiques des outils informatiques à mettre en œuvre dans le cadre de cette dématérialisation. D'une part, l'arrêté fixe les exigences techniques et fonctionnelles des téléprocédures spécifiques prévues par la loi Elan que je viens d'évoquer, tant dans le cadre des relations avec l'usager que dans celui de l'instruction des demandes. D'autre part, l'arrêté donne une assise juridique à l'outil informatique de transmission et de partage Plateau, mise à disposition des acteurs de l'instruction par l'État, sans, et là j'insiste, c'est important, toutefois être rendu obligatoire.
Quelles ont été vos principales préoccupations lors de la rédaction de ces textes ?
Alors elles ont été de deux ordres. La première a été de procéder à une modification vraiment à minima des règles pour ne pas remettre en cause les principes de la chaîne d'instruction telle qu'on les connaît aujourd'hui. Alors bien sûr, nous avons tiré les conséquences des avantages que procure la dématérialisation et plus précisément de l'instantanéité des échanges. Mais les responsabilités de chacun restent les mêmes. Notre seconde préoccupation a été de tenir compte des retours des collectivités territoriales qui ont déjà expérimenté cette dématérialisation ou qui se sont récemment engagées dans cette démarche. Nous avons bien évidemment sollicité également l'ensemble des acteurs de la chaîne d'instruction, donc les services déconcentrés du ministère, les DDTM, les partenaires publics ou privés qui sont chargés de rendre des avis dans le cadre de l'instruction, les éditeurs de solutions informatiques et enfin, bien entendu, nos collègues des autres ministères concernés par la réforme. Donc, toutes ces contributions, tout au long des étapes d'élaboration du texte, nous ont permis d'ajuster le contenu de ces textes par rapport à la pratique ou aux attentes des acteurs.
Benoît, vous indiquiez tout à l'heure que la réforme visait à articuler le code de l'urbanisme avec les dispositions générales du code des relations entre le public et l'administration. Comment se fait concrètement cette articulation ?
Alors, il faut tout d'abord avoir à l'esprit que le CRPA constitue le socle juridique de référence en matière d'échange par voie électronique. Il est applicable à toutes les procédures en l'absence de dispositions spéciales spécifiques. Donc, toujours dans l'esprit de modification à minima, notre travail en réalité a consisté à effectuer une lecture croisée des deux codes et au final d'en dégager les seules adaptations sectorielles, c'est-à-dire du droit de l'urbanisme, qui étaient strictement nécessaires. Donc, ces adaptations, ça pouvait se traduire par des mises en cohérence avec le régime général ou par des compléments et des aménagements, mais uniquement lorsque les spécificités du droit de l'urbanisme le justifient. En conséquence, les acteurs des procédures devront se référer à la fois au CRPA et au Code de l'urbanisme pour mettre en œuvre la saisine par voie électronique et puis plus largement la dématérialisation de leurs procédures.
Une dernière question avant, et puis après je me tournerai vers vous, Patricia. Est-ce que les CERFA de demande d'autorisation d'urbanisme vont être modifiés ?
Oui, tout à fait. Nous travaillons en ce moment à une actualisation du bouquet de formulaires CERFA qui concerne les procédures d'autorisation d'urbanisme. Donc, il s'agit de prendre en compte les évolutions réglementaires qu'on vient d'évoquer et puis plus largement la possibilité de transmission dématérialisée des formulaires. Donc, ce chantier doit aboutir d'ici la fin de cette année.
Et on est toujours à temps pour l'échéance du 1er janvier 2022. Merci Benoît, je vais m'adresser à présent à vous Patricia. Les règles relatives à la dématérialisation n'étaient pas totalement absentes du code de l'urbanisme. Et un article prévoyait notamment que l'administration avait la possibilité de notifier ses décisions aux usagers par échange électronique, ça existait. Pourquoi avoir supprimé cette disposition ?
Alors, avant toute chose, il me paraît nécessaire de rappeler que cette abrogation ne supprime pas la possibilité pour l'administration de répondre aux usagers par voie électronique. Alors, pourquoi avoir supprimé cet article ? Deux raisons. La première est que cette disposition, finalement, du Code de l'urbanisme posait des problèmes de redondance et d'articulation avec le cadre général, posé par le Code des relations entre le public et l'administration. Ce cadre général, en fait, autorise déjà l'administration à répondre aux usagers par voie électronique dès lors qu'elle a réussi à recueillir le consentement de la personne concernée. Cependant, il existe une condition supplémentaire lorsqu'un envoi recommandé papier est exigé de l'administration, comme c'est bien souvent le cas, en fait, dans l'application du droit des sols. Dans ce cas particulier, le CRPA impose de procéder à un envoi par recommandé électronique ou par procédé électronique équivalent de type téléprocédure, ce qui finalement ne correspond pas à un envoi courriel simple. Donc la disposition du code de l'urbanisme ne mentionnait pas explicitement cette condition, ce qui pouvait créer des difficultés d'interprétation. Donc son abrogation et la pleine application du régime général va mettre fin finalement à cette ambiguïté.
Comme ça, au moins, tout est clair. Il n'y a pas d'erreur possible. Vous avez parlé de deux raisons. On a la première. Quelle est la seconde ?
Oui, tout à fait. Alors, la seconde raison est que la disposition en question, finalement, était un frein en pratique à l'utilisation de la dématérialisation, compte tenu des règles de computation des délais qu'elle prévoyait. En pratique, elle conduisait en effet l'administration à envoyer ses notifications par voie électronique au moins 8 jours avant la fin des délais, alors que dans le cas d'un envoi papier, elle pouvait envoyer ses notifications 2 à 3 jours seulement avant l'échéance. Donc finalement, le décret permet de revenir sur cette différence de traitement qui était défavorable aux transmissions dématérialisées en prévoyant pour ces notifications par voie électronique que les délais commencent à courir dès le lendemain de la date d'envoi à l'usager de l'avis de mise à disposition des documents. Donc en définitive, ce qu'il importe de retenir, c'est que l'administration, de toute façon, pourra toujours répondre aux usagers par voie électronique, mais dans des conditions plus claires et finalement, in fine, plus favorables à l'administration.
Voilà plutôt une bonne chose. Une question toutefois, la dématérialisation va permettre aux demandeurs d'envoyer leur dossier n'importe quand, c'est-à-dire le dimanche, les jours fériés, ou alors le soir tard, c'est-à-dire tous ces horaires qui étaient en dehors des horaires d'ouverture de l'administration. Est-ce que les communes pourront accuser réception de ces demandes plusieurs jours après leur réception effective ?
Alors oui, tout à fait. Les nouvelles dispositions finalement du code de l'urbanisme renvoient directement au code des relations entre le public et l'administration qui prévoit 2 cas de figure. Soit l'administration a la possibilité de délivrer ce qu'on appelle un accusé de réception électronique de manière instantanée qui va comprendre toutes les mentions obligatoires, soit l'administration ne peut pas délivrer de manière instantanée cet accusé de réception électronique et elle va dans un premier temps délivrer un accusé d'enregistrement électronique dans un délai d'un jour ouvré, attestant uniquement du dépôt. Puis dans un second temps, on devra délivrer un accusé de réception électronique dans un maximum de 10 jours ouvrés suivant le dépôt et comprenant cette fois-ci donc toutes les mentions obligatoires.
Dans ce dernier cas de figure, il y a donc deux dates, hein, la date de l'accusé d'enregistrement et la date de l'accusé réception. Laquelle de ces deux dates va marquer finalement le point de départ du délai d'instruction ?
Alors, le code des relations entre le public et l'administration n'était pas très clair sur ce point. C'est pour ça que finalement, le décret qui a été adopté le 23 juillet dernier est venu préciser la date du point de départ des délais. Donc, dans l'hypothèse où il y a un accusé d'enregistrement électronique, les délais commenceront à courir à compter de la délivrance de l'accusé d'enregistrement électronique, soit donc au plus tard, un jour ouvré après réception de la demande. Donc
juste après l'envoi, finalement.
Tout à fait.
Merci Patricia pour cette précision. Une autre question qui concerne cette fois l'arrêté relatif à la téléprocédure. Est-ce que l'ensemble des collectivités territoriales sont concernées par les dispositions de cet arrêté ?
Alors, non. Ce sont principalement en fait les communes de plus de 3500 habitants qui sont concernées par l'application de la loi Elan de 2018. Les autres communes, donc celles de moins de 3500 habitants, ont le choix entre deux possibilités. Soit mettre en place cette téléprocédure qu'on appelle téléprocédure loi Elan, soit mettre en place d'autres procédés électroniques, comme par exemple une adresse mail dédiée.
Concernant toujours cette téléprocédure, Benoît a précisé tout à l'heure que l'arrêté fixe les exigences fonctionnelles et techniques de la téléprocédure. De quoi parlons-nous exactement ?
Alors, peut-être avant de préciser ces exigences fonctionnelles et techniques, revenir sur ce qu'on entend par téléprocédure. Alors, une téléprocédure, pour dire les choses assez simplement, c'est un système d'information mis en place par une commune qui permet aux usagers de réaliser une démarche administrative. Donc, finalement, vous voyez bien que derrière la notion de téléprocédure se cache une multitude de solutions informatiques. Donc, la loi Elan de 2018 qui renvoie à l'arrêté qui a été adopté le 27 juillet dernier, est venu encadrer à minima cette téléprocédure dans le cadre du dépôt et de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Donc l'arrêté est venu fixer un certain nombre d'exigences fonctionnelles obligatoires, comme par exemple le fait de donner la possibilité à l'usager et à l'administration d'échanger entre eux des informations, des documents, des fichiers, ou encore permettre à l'usager d'avoir un espace personnel à partir duquel il pourra visualiser l'état d'avancement de son dossier. L'arrêté vient aussi préciser donc les caractéristiques techniques, qui sont des caractéristiques a minima, et là-dessus je me permets d'insister que c'est a minima, donc les collectivités pourront aller au-delà de ces exigences, et ça permet finalement, ces caractéristiques techniques vont permettre de garantir aux usagers leur droit de saisir l'administration par voie électronique. Alors, pour donner quelques exemples de caractéristiques techniques, il y a notamment l'obligation de mettre en place un système d'eurodatage, puisque ça va permettre finalement de connaître le point de départ des délais. Mais on va avoir aussi l'obligation, du moins les collectivités auront aussi l'obligation, de mettre en place une téléprocédure qui sera en capacité de recevoir à minima les fichiers d'une taille de 10 mégaoctets ou un certain nombre de formats qui vont être imposés. Alors, chaque collectivité, finalement, doit donc s'interroger sur l'opportunité d'aller au-delà de ces seuils en fonction de sa situation particulière. Et dans tous les cas, ces mentions particulières, ces fonctionnements, ces exigences techniques et fonctionnelles particulières devront en outre être précisées dans les conditions générales d'utilisation.
Merci Patricia pour ces dernières explications. Merci également à vous Benoît et Vincent. Vous restez bien avec nous puisque après avoir abordé ce sujet plutôt attendu par beaucoup d'acteurs, nous allons maintenant répondre à leurs questions tout de suite avec Michel.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Michel, est-ce qu'on a beaucoup de questions ce matin ? Je suis sûre que oui.
On a déjà beaucoup d'auditeurs qui se sont présentés sur le chat, sur le fil. Beaucoup de collectivités et aussi quelques DDT. Donc on va prendre une première question, une question de Fabrice, qui demande quelles seront les conséquences si une commune n'a pas mis en place de téléprocédure ou de saisine par voie électronique au 1er janvier 2022 ?
Alors, je vais peut-être répondre
Vincent.
En général sur ce plan-là. C'est-à-dire que, En fait, la loi Elan a effectivement fixé cette obligation, mais à ce stade, il n'y a pas de sanction prévue par la loi. Ceci étant, il y a deux risques pour les collectivités. Le premier, c'est dans le cadre de la saisine par voie électronique, le risque que, faute d'avoir un dispositif, un pétitionnaire envoie une adresse électronique, envoie une demande à n'importe quelle adresse mail de la collectivité, avec le risque de faire partir des délais, puisqu'il y aura bien eu une saisine par voie électronique, et donc éventuellement une décision tacite qui sera rendue, alors même que la collectivité n'aura pas été en mesure d'organiser la réponse à cette demande d'autorisation. Donc, la première attention à avoir, c'est que pour toutes les communes, il faut qu'elles disposent d'un dispositif à minima, de manière à ce que on ait au moins une procédure quelconque ou une adresse dédiée de manière à permettre cette saisine par voie électronique pour éviter effectivement le risque de décision tacite qui pourrait être rendue du fait de l'absence de réponse dans le délai d'un mois ou deux mois en fonction du point de savoir si c'est une déclaration préalable ou une demande de permis de construire. Ça, c'est pour la saisine par voie électronique. Et s'agissant de la dématérialisation complète, là aussi, il peut y avoir un risque que des pétitionnaires estiment que l'absence de dématérialisation leur a causé un préjudice, qui pourrait être, par exemple, le fait de n'avoir pas pu, de manière plus rapide, plus aisée, déposer une autorisation de construire. Et donc, on ne peut exclure éventuellement des actions qui pourraient être exercées au contentieux auprès d'une collectivité. Alors effectivement, il faudrait que le pétitionnaire justifie du fait que la dématérialisation lui a effectivement causé un préjudice. Tout ça n'est pas totalement évident d'un point de vue juridique à établir, mais en tout cas, le risque existe. Et au-delà des risques juridiques qui existent, il y a peut-être un élément supplémentaire, c'est-à-dire que la dématérialisation est vraiment quelque chose qui est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour les pétitionnaires, car on offre un meilleur service aux pétitionnaires, on a une garantie de rapidité, et c'est gagnant pour la collectivité, puisqu'elle va pouvoir instruire dans de meilleures conditions ses dossiers, pouvoir donner des réponses plus rapides, dans un cadre juridique sécurisé, et donc pour la satisfaction de tous ces administrés. Et on peut supposer que l'ensemble des collectivités œuvrent au premier chef à la satisfaction de l'ensemble de leurs administrés. Donc pour toutes ces raisons, il faut que les collectivités soient en état de proposer pour les plus de 3500 habitants la télétransmission, la téléprocédure, et pour celles qui n'y sont pas assujetties, à minima la saisine par voie électronique, et si elles le peuvent, la dématérialisation complète via la téléprocédure. Ce n'est bien évidemment pas interdit, et comme Jean-Baptiste a dû vous l'expliquer dans de précédentes émissions, les centres instructeurs étant le plus souvent au service de collectivités de plus de 3500 et de moins de 3500, ils vont proposer ce service à l'ensemble de leurs collectivités. Donc pour résumer, il faut effectivement qu'elle soit le plus possible en état de respecter ses exigences et à minima, effectivement, être en mesure de proposer une saisine par voie électronique.
Merci. Alors on va prendre une autre question de la communauté de communes des Sept Vallées qui demande: pour une commune de moins de 3500 habitants, l'accusé de réception électronique doit-il être automatique ou une simple réponse par mail suffirait-elle, même plusieurs jours après la réception du mail?
Je vais prendre cette question. Peu importe la taille de la commune, finalement, l'obligation de délivrer à un accusé de réception électronique, elle existe pour toutes les administrations, toutes les communes. Alors évidemment, il n'est pas forcément évident de délivrer instantanément cet accusé de réception électronique, notamment puisque en matière de procédure d'autorisation d'urbanisme, il devra contenir le numéro d'enregistrement de la demande qu'on ne peut pas forcément générer automatiquement. Donc le CRPA prévoit dans ces cas-là, quand il n'est pas possible de délivrer instantanément l'accusé de réception électronique, de différer cet envoi, donc dans un délai de 10 jours. Mais en contrepartie, on doit délivrer très rapidement, dans un délai de maximum un jour, un accusé d'enregistrement électronique qui, lui, contient vraiment les informations essentielles et qui est en fait une confirmation pour l'usager que l'administration a bien reçu sa demande. Et donc voilà, ça c'est un message qui peut être généré très facilement, automatiquement, ou en tout cas à très courte échéance.
D'accord, donc il faut vraiment pouvoir générer ce message automatiquement pour répondre à la communauté de communes des Sept Vallées. Une simple réponse par mail plusieurs jours après ne suffit pas.
Il faudra un minima qu'il y ait un accusé d'enregistrement électronique, qui peut être un simple mail. Hein, mais voilà.
Oui, mais automatique en fait, automatisé.
Ou dans un délai d'une journée.
Une question de Sophie qui demande des compléments d'explication sur les conditions d'envoi des décisions par voie électronique. Peut-être c'est pour Patricia ou...
Alors, quand on pense à la dématérialisation, il faut faire le parallèle avec l'envoi papier. Donc, normalement, pour les décisions par voie papier, la plupart des décisions en matière d'autorisation d'urbanisme se font par l'intermédiaire d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Donc, a priori, si on applique un parallélisme, il faudrait faire la même chose en matière d'envoi électronique. Donc, on peut envoyer une décision, premièrement, par une lettre recommandée électronique, ce qui correspond finalement à ce qu'on fait en envoi papier. Mais on peut aussi, même si la demande a été faite de manière par voie papier, l'administration pourra aussi répondre donc par l'intermédiaire d'un procédé électronique de type téléprocédure. Et là, je rebondis sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Il faut nécessairement que l'administration recueille au préalable et de manière expresse le consentement de l'usager. L'idée étant, avec notamment toute la refonte des CERFA qui est en cours, de prévoir justement un emplacement spécial dans les CERFA qui permettent de recueillir ce consentement et donc de faciliter le travail de l'administration et de procéder à un envoi électronique de cette manière.
Peut-être également un tout petit complément sur le formalisme de la décision transmise aux usagers. Il y a une spécificité en matière d'envoi électronique des décisions. Via des téléprocédures, donc ça incite également à développer ce type d'outil, c'est que la signature de l'autorité auteur de la décision n'est pas formellement requise, ce qui évite d'avoir à recourir à des dispositifs de type signature électronique. Il suffira de porter un certain nombre d'informations à minima, comme le nom, le prénom et la qualité du signataire et le service auquel il appartient, le cas échéant.
Super, merci beaucoup Benoît, parce que ça répond à la question de la mairie de Saint-Laurent de Salange qui vient de tomber, qui demandait qu'en est-il de la question de la signature électronique. Est-ce que cette question est réglée ? Donc cette question est réglée. Il y a beaucoup de questions qui tombent, on va reprendre une question peut-être. Sur le même sujet, il y avait une question aussi sur les conditions d'envoi des arrêtés signés par le maire, donc je suppose que ça n'apporte pas une réponse différente.
Non, alors peut-être juste pour parler de la signature électronique, je pense qu'il est peut-être aussi fait référence à la signature du pétitionnaire sur les formulaires de demande qui est prévu aujourd'hui dans les formulaires CERFA. Ce n'est pas une condition stricte du Code de l'urbanisme, donc on estime qu'elle ne sera pas, il n'y aura pas besoin de prévoir un dispositif de signature électronique pour le pétitionnaire pour qu'il puisse déposer sa demande, éventuellement une simple coche dans l'outil de dépôt de la demande pour recueillir le consentement de l'usager suffira.
D'accord, merci Benoît. Alors je vais prendre une question un peu longue, je vais essayer de vous relire. Donc c'est une commune aussi qui la pose. Donc la question demande, à l'abrogation du R423-48 du Code de l'urbanisme et le nouvel article R474-1 du même code oblige les communes instruisant actuellement les demandes par voie électronique avec une décision ou un courrier signé électroniquement à réimprimer pour un envoi par lettre avec excusé de réception, faute de la mise en place d'un procédé électronique ou un recommandé électronique. Cette abrogation sans délai nous a contraints de réimprimer les courriers et arrêter dans l'attente de la mise en place de l'une de ces solutions et c'est dommage. C'est pas vraiment une question même d'ailleurs.
Oui, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a une pleine application des règles de droit commun qui prévoit un parallélisme qui semble finalement logique entre le recommandé papier où il a eu, vous êtes exigé, enfin entre l'envoi papier où il est exigé un recommandé c'est déjà quelque chose d'assez lourd. Et par parallélisme par voie électronique, il est également exigé un recommandé électronique ou une téléprocédure, ce qui peut être beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux pour la collectivité, tout simplement parce qu'il y a quand même des enjeux très importants derrière en matière de point de départ des délais pour que l'usager puisse répondre, ou en matière contentieuse. Donc, ce qui fait que voilà, c'est ça qui justifie que le droit commun pour toutes les procédures administratives, et j'insiste, c'est pas que pour les procédures d'urbanisme, impose un formalisme particulier pour les réponses de type recommandé.
On peut peut-être préciser qu'en fait, la pratique qui était évoquée par cet auditeur, en fait, était une pratique qui résultait de certains flous du code de l'urbanisme, mais qui devait être lu à la lecture des dispositions de droit commun du code des relations du public avec l'administration, ce qui n'était pas forcément quelque chose de totalement évident. C'est la raison pour laquelle on a souhaité, comme l'ont expliqué Benoît et Patricia, clarifier cette situation en l'alignant finalement et en adaptant le régime sur celui du CRPA. Alors ça peut apparaître pour ceux qui avaient cette pratique comme quelque chose de plus complexe. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça sécurise le dispositif. Et c'était quand même aussi l'objectif. Et alors, effectivement, là, tel que l'indique l'auditeur, ça peut paraître comme une complexité nouvelle. Où on se retrouve à imprimer en version papier des éléments qu'on pouvait envoyer de manière électronique avant. Donc on a l'impression d'une régression. Mais c'est une régression qui est très temporaire, puisque dès lors que l'on sera dans un dispositif électronique, on reviendra finalement à une situation antérieure qui était la situation beaucoup plus confortable qui était évoqué par cet auditeur. Alors c'est une situation transitoire, alors qu'on peut effectivement trouver comme malheureuse, mais qui était nécessaire si l'on voulait avoir une architecture juridique cohérente pour l'ensemble des échanges entre l'administration et les administrés.
On a encore le temps de prendre une ou deux questions, si vous voulez, Michel.
Et donc, je vais prendre la dernière question qui est tombée. En cas de pluralité de demandeurs, une ou plusieurs signatures électroniques sont-elles requises? En cas de transfert, comment recueillir l'accord du titulaire du permis de construire initial lorsque la demande sera effectuée par le bénéficiaire du transfert?
Alors, peut-être pour répondre à la première question et reprendre les éléments finalement qui ont été donnés par Benoît tout à l'heure, dans le cas où il y a une pluralité de demandeurs, ce sera la même situation que pour le demandeur qu'on peut appeler principal, c'est-à-dire que la signature n'est pas requise. Donc, ce qui peut être prévu par les téléprocédures des collectivités, c'est de faire une validation, d'envoyer un mail aux autres demandeurs pour qu'ils puissent valider en fait le dossier de dépôt.
Ou simplement que la téléprocédure qui est offerte permette à l'ensemble des demandeurs d'affirmer leur consentement par une coche.
Allez, on en prend une dernière.
Allez, une dernière. La signature est obligatoire aujourd'hui sur la DENSI. Alors la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions. Est-ce qu'elle sera aussi par voie électronique?
Alors c'est exactement le même cadre que pour la demande principale, puisque la DENSI, donc, qui sert à pouvoir liquider les taxes qui vont derrière, c'est exactement la même situation que la demande, c'est-à-dire que la signature n'est pas requise en tant que telle. Par les textes, et donc on pourra tout à fait s'en passer lors d'une saisine par voie électronique de l'usager.
Merci Benoît pour cette ultime réponse. Alors il doit encore rester des questions, mais pas de panique, hein, on va continuer de toute façon encore toute la saison à parler du programme des MATDS et de son application, surtout maintenant que la date approche à très très grands pas, donc n'hésitez pas, on y répondra évidemment très vite. On va profiter des dernières secondes pour remercier les quatre personnes qui étaient sur le plateau ce matin avec moi: Vincent Montrieux, sous-directeur de la qualité du cadre de vie au sein de la direction direction générale de l'aménagement du logement et de la nature, Benoît Habert, chef bureau du droit des sols et de la fiscalité associée, Patricia également qui était avec nous, Patricia Chérig, chargée de mission juridique sur le programme DEMAT ADS, et évidemment Michel Félep, chargé de mission animation territoriale au sein de la direction en charge de l'urbanisme des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Michel, est-ce qu'on leur dévoile déjà le sujet de la semaine prochaine ?
La semaine prochaine, ce sera sur la note d'enjeu pour les documents d'urbanisme.
Eh bien voilà, on continue dans l'urbanisme. Merci Michel. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain à 11h pour un nouveau numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. En attendant, vous pouvez rattraper tous les numéros des MAT ADS et les autres sur notre application Radio Territoria sur le site radioterritoria.fr. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à mardi prochain.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Une émission en partenariat avec les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à réécouter et télécharger sur Radio Territoria et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles.